Le masque et la plume. Bonsoir à tous et bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les loups de la critique. Daniel Eman de Marianne, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles et Pierrot Pierre Murat de Télérama pour parler... outre de La Vallée des Loups, des films de Bellocchio, Faites Beaux Rêves, de Pablo Larraine, Neruda, d'Ewan McGregor, American Pastoral, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, d'Hélène Angèle, Primaire, de Juan Antonio Bayona, et c'est quelques minutes après minuit, et du fondateur de John Lee Hancock. Dans Le Courrier, Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence a été atterré, il faut dire comme moi, de constater que quatre grands critiques du Masque et la Plume aient pu trouver des qualités à Jamais de Benoît Jacquot, un film qui essaie de marier un travail de deuil et un fantastique de pacotille avec des scènes si grotesques qu'on se demande s'il faut en rire ou en pleurer. Même surprise de Cléo Bruno, vos éloges pour À Jamais confirment l'ancienne selon laquelle certains réalisateurs ont la carte, fais pas cette tête Daniel. Benoît Jacquot en fait partie et c'est navrant. Pour paraphraser Alain Chabat dans Prête-moi ta main, il ferait caca sur la table, vous diriez « Oh, il a bien mangé ». À propos du Jarmusch, Mathias Turcot est lui aussi atterré. Patterson est une caricature de film d'auteur où il ne se passe rien. Jarmusch ressasse ses obsessions et sa mise en scène, et c'est d'une platitude catastrophique. Patterson, ajoute Séverine Détête, raconte une semaine sans intérêt de la vie de gens qui n'en ont pas.
Pourquoi tu me regardes ? J'étais
heureusement
pas là.
Qu'il y a le bulldog, de loin, le meilleur acteur du film.
Il est mort.
Quant à Cyril de Colombe, il nous écrit que Xavier le fait hurler et pleurer de rire. J'écoute son résumé de Patterson en boucle. Enfin, avis partagé pour Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Didier Castellan a aimé ce film. Comment arrive-t-il à tenir la ligne de crête entre le pathos larmoyant qui serait grotesque et le convenu esthétique qui serait barbant? Pierre-Laurent Boudet de Bruxelles salue la justesse des comédiens, la beauté des plans, l'utilisation délicate de la musique. Delphine Auriol de Paris, laissez-vous emporter par le courant de Manchester by the Sea et plus fort que la douleur, je vous garantis un pied intersidéral. Personnellement, je ne me suis pas encore remise du voyage. Et Martine Pavageau de Besançon salue un film remarquable avec un casier à fleck royal, à tel point que Jérôme Clément ne s'explique pas comment son icône, son idole, son dieu vivant de la critique, Xavier Le Herpeur, a pu passer à côté de ce film bouleversant, sans phare, sans faux semblant. Puis il y a ceux qui font de la résistance, comme Marianne Bernard, trop de pathos, tue le pathos, et là on y est en plein. Ou encore Paul Walter, qui trouve ce film lourdingue, calculé, long. Ce qui m'inquiète, c'est que Xavier était seul contre tous. Ou Géraldine Petit de Clichy, qui n'a pas aimé non plus ce film, et qui ne parle de rien, ni du deuil, ni de la culpabilité, ni d'amour. Le chef-d'œuvre dont vous parlez n'est qu'un film raté. Ou Claire Tran de Paris, qui trouve que ce film est ennuyeux, perfusé d'un pathos hallucinant, avec des violons et de la chorale sur des ralentis tout au long du film. Et puis, pour terminer, sur Manchester by the Sea, eh bien, c'est Monsieur Besse qui nous dit « Très beau film, certes, mais Albinoni, non, fallait pas. » Allez, on commence avec American Pastoral, le premier film de l'acteur britannique Ewan McGregor, qui adapte ici le roman de Philip Ross, le premier de sa trilogie américaine. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-la. L'histoire, je vous le rappelle, de Seymour Levov, dit le Suédois. C'est donc évidemment McGregor, patron juif d'une ganterie marié à une ex-Miss New Jersey dépressif. C'est Jennifer Connelly et sa vie tranquille va basculer quand en 68, sa fille de 16 ans, Mary, qui est jouée par Dakota Fanning, qui est révoltée contre la guerre du Vietnam, d'ailleurs contre tout, hein, la société, la famille, commet un attentat dans la poste locale, provoque un mort et prend la fuite. La suite, je ne la raconte pas, si vous n'avez pas lu le roman. C'est un roman vraiment sur la pastorale américaine perdue, roman très fort et film qui m'a semblé très, très convenu, d'autant que le vrai propos du livre, sur la judéité, sur l'assimilation, sur le rêve américain, est totalement évacué au profit de la seule reconstitution, qui est d'ailleurs très propre, hein, des années 60. Ça dure 1h50. Qu'en pensez-vous, Jean-Marc ?
Le film est pas très convaincant sur l'ensemble.
J'aime bien le pas très.
mais malgré tout, je trouve qu'il y a des choses localement réussies. Alors, le gros problème du film, je pense que c'est sa construction. Tu disais que ça durait 1h50. Ce qui peut sembler long si on s'ennuie pendant le film, mais en même temps, c'est pas assez pour restituer la dimension de fresque du roman d'Oroth. Et on se dit par moments qu'une série aurait mieux rendu compte de tout ce qu'il y a de contradictoire au travail de chacun des personnages. Et on a l'impression d'une traversée comme ça au pas de charge du destin des personnages. Et du coup, on a l'impression que tout est contracté, que rien ne peut vraiment accéder à une dimension de profondeur qui est dans le roman. Mais malgré tout, je trouve qu'il réussit des scènes. Pas tellement grâce à la mise en scène qui, comme tu l'as dit, est assez plate, assez illustrative, un peu appliquée, scolaire. Mais je pense grâce aux acteurs. C'est sa première réalisation. Il se sert pas le rôle le plus payant. C'est-à-dire que lui, notamment sans plus.
Dakota Fanning est.
Voilà. Les deux actrices, je trouve formidables. Oui. Jennifer Connelly, elle a quand même des scènes où elle est très émouvante. Et Dakota Fanning est vraiment, vraiment formidable. Je pense que c'est une erreur d'avoir gardé le personnage de Zuckerman. C'est-à-dire que je trouve que dans ce qu'il fait de l'histoire, ça n'apporte rien. On a l'impression que il est réduit à une voix off au début, à la fin, un peu explicative. Donc je pense vraiment qu'il n'a pas assez tranché dans le roman, qu'il aurait dû encore plus se recentrer sur quelque chose. Et malgré tout, je trouve quand même qu'il reste des scènes dans le film, essentiellement grâce aux actrices.
Pierrot ?
Oui, parce que je suis à peu près d'accord. La grande faiblesse de Ewan McGregor, c'est Ewan McGregor, c'est acteur, je trouve qu'il est, il est... Moi, alors là, je le trouve pas bon, mais alors pas bon du tout. Et je trouve qu'il a trop, il avait trop de boulot à faire que de réussir une adaptation, enfin, même s'il ne l'a pas signé, mais enfin, il signe le film, et de jouer le rôle principal. Il est d'une fadeur, d'un transparent absolument total. Alors, est-ce volontaire ?
Qu'il a toujours été, c'est pas nouveau.
Non, d'accord.
Mais non, je suis pas d'accord. Non, c'est un bon acteur.
Mais il y a quelques films dans lesquels, malgré tout, il était beaucoup plus vif.
Chez Polanski, par exemple.
Oui, beaucoup plus ambigu que ça. Là, on dirait qu'il ne prend pas une ride. On dirait qu'on lui a gommé absolument toute expression. Il ne fait rien. Et alors, il se contente d'être l'observateur de quelques événements qui lui paraissent extrêmement bizarres, bien entendu. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a des scènes très réussies. Dakota Fanning, qui était une tête à claque, absolument, dans le film de
La Guerre des Mondes.
La Guerre des Mondes, elle était, mais à gifler pendant tout le film. Là, elle a grandi et elle est vraiment très, très, très bien. Tous les personnages, les deux femmes sont évidemment très bien. Il me semble simplement que la fadeur de l'adaptation fait qu'on ne s'intéresse pas à grand chose. Je pense que visiblement, ce qu'il a intéressé, c'est de montrer la révolte de la jeunesse de 68, à laquelle il veut sans doute faire référer tout ce qui peut se passer comme violence aujourd'hui. Et il a éliminé,
ouais,
en effet.
Enfin, le sujet du roman de Ross, c'est pas ça, hein.
Oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui, visiblement, il a voulu faire. C'est la révolte des jeunes contre le monde de 68 à l'époque et d'une autre actuellement. Ça marche pas toujours.
Daniel ?
Moi, ça m'a donné follement envie de relire le livre de Ross. Voilà. Mais vraiment.
C'est en poche, les trois.
Voilà.
Lisez-les.
Voilà,
hein.
Voilà.
C'est en folio.
Parce que il est pas là. Il est pas là, Philippe Ross. Monsieur McGregor est là et il fait le boulot et il est intimidé un petit peu de faire le boulot. Et on n'arrive pas à trouver cette rage et cet effondrement du rêve américain. Bon, alors oui. Alors, on le saura qu'elle a été Miss New Jersey, hein. Et elle est magnifique. Elle est très émouvante, mais chacun a sa part d'émotion qui n'arrive pas à rejaillir sur le film entier. Et moi, je sais pas, je trouve qu'il y a tout à coup, alors on va vous montrer ce que c'était les militants contre la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qu'ils montrent ? Ce sont des tueuses décérébrées. Attends, non, c'est pas que ça. Oui, elles ont
rêvé. Et puis ça a existé.
Ça a existé, mais c'est tellement maladroitement montré. Que tout à coup, il y a que ça. C'est-à-dire, il y a des bulles comme ça de violence. Il y a des scènes, en effet. La fabrique de gants, je trouve tout à coup, alors effectivement, avec la fierté, en disant, mais il y a des noirs heureux qui travaillent pour nous. Il y a tout à coup des petits passages comme ça de grâce. Mais l'ensemble, voilà, j'ai refermé le film Et j'ai rouvert le livre de Ross.
Xavier.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes petits camarades. C'est un film raté dans la mesure où c'est quand même l'histoire d'un monde qui s'écroule, d'une société qui explose, des coutures qui sont en train de se fissurer. Et le film est constamment lisse, joli, bien brodé. Donc, on a une contradiction immédiate et évidente. C'est-à-dire que là où il faudrait, et peut-être qu'effectivement, si Jennifer Connelly nous séduit autant, c'est qu'elle est la plus inquiétante du film, parce qu'elle est éternellement bloquée à l'âge de la reine de beauté. Et elle est cette Amérique qui ne veut pas changer. Effectivement, elle ne prend aucune ride. Elle ne semble pas, le temps n'a pas de prise sur elle, alors qu'autour d'elle, effectivement, tout est en train, justement, d'exploser. Et elle traverse ça avec une espèce d'indifférence qui est vraiment inquiétante, qui est vraiment quelque chose qui semble étrange, qui semble ambigu. Et à côté de ça, le film est lisse, le film est joli, même quand il dépeint le monde, effectivement, de ces gens ostracisés sur le côté, sales, ne se lavant plus, c'est joli. C'est joli à regarder, c'est joliment éclairé, c'est joliment décoré. Quand il retrouve sa fille dans ce car monde,
ça c'est pas bon. Ça.
Ben c'est pas bon du tout parce qu'effectivement il faudrait qu'on sente la sueur, il faudrait qu'on sente la maladie, il faudrait qu'on sente
c'est trop propre.
La saleté,
c'est trop propre.
C'est ripollinisé et voilà, il va à l'encontre du roman en faisant un film qui est constamment propre sur lui.
American Pastoral, d'Ewan McGregor. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le studio? Non. Eh bien, on passe à. Avec un peu de fantastique, à quelques minutes après minuit, une fable mélo de l'espagnol d'Hollywood, Juan Antonio Bayona, réalisateur de L'Orphelinat, grand spécialiste du tir-larme. Tu as tort de ne pas y aller, Daniel, qu'on surnomme le nouveau Spielberg. Tu vas y aller. Après l'émission, ça n'a pas de sens. Petit Lewis McDougall, Felicity Jones et Limar, ses cibles, Sigourney Weaver. Connor, un gamin de 12 ans, c'est donc le petit Lewis McDougall, harcelé en classe par ses camarades, vit seul avec sa mère, Madame Jones, qui se meurt d'un cancer. Elle doit donc emménager chez sa grand-mère, qui est très antipathique, c'est Madame Sigourney Weaver qui s'y colle. Chaque nuit, il s'échappe, le gamin, dans un monde imaginaire, grâce à un arbre géant qui lui raconte des légendes, avec la voix de Liam Neeson et sous la forme d'un film d'animation qui lui apprend le courage d'affronter la réalité. Alors, c'est adapté d'un roman britannique de Patrick Ness qui paraît chez Gallimard Jeunesse. L'image est franchement plus intéressante que le propos, non, Xavier?
Je crois déceler dans la manière dont tu as résumé, en toute objectivité bien évidemment, le film que tu avais quelques réserves. Moi, j'aime plutôt beaucoup ça. Ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment ému parce que...
Pour des raisons personnelles?
Oui, sans doute, effectivement, mais parce que ça parle de l'enfance et que ça parle de tout ce qui est refoulé à cet âge-là et des deuils qu'on refuse de faire et qu'il faudra apprendre de coûte que coûte justement à faire. Sujet qu'on retrouvera d'ailleurs dans un autre film ce soir, le film de Bellocchio, par exemple. Mais je trouve que, il manque juste une chose à ton résumé, c'est que l'arbre géant lui lance un défi. Il lui dit, je vais te raconter trois histoires.
Absolument.
Au terme desquelles tu me raconteras la tienne. Et les trois histoires renverse constamment les sur l'échiquier du bien et du mal les premières impressions qu'on en a. C'est-à-dire que les gentils ne le sont pas nécessairement et les victimes ne sont pas nécessairement des victimes mais peut-être aussi des bourreaux détournés. Donc il y a une manière comme ça de constamment apprendre à l'enfant à distinguer derrière les évidences une autre réalité dont il fera peut-être la sienne enfin un jour pour apprendre à se construire face au deuil, face à sa maman qui est en train de mourir du cancer. C'est une fable, donc les personnages sont parfois un tout petit peu posés lourdement comme Sigourney Weaver, mais il y a un décor autour d'elle, il y a aussi quelque chose d'anxiogène dans la maison qu'elle habite et qu'il va détruire peu à peu. La scène où il met tout à sac, elle est assez impressionnante, de colère, de rage. Je trouve que le monstre que le réalisateur a voulu reconstituer de la manière la plus vintage possible, puisqu'il a évité les effets numériques et qu'il a construit comme pour qu'il
l'image, j'ai dit que l'image était intéressante.
Mais voilà, vraiment, il a construit des bras géants manœuvrés de manière hydraulique, donc ça permet d'abord au jeu de l'enfant vraiment de se heurter à quelque chose, et je trouve que ça contamine la mise en scène au bon sens du terme, c'est-à-dire que ça lui donne constamment quelque chose d'un peu étrange, d'un peu inquiétant là aussi sur le bord cadre, flirtant avec du Tim Burton, mais avec quelque chose qui ressemble à Bayona, c'est-à-dire cette inquiétude de l'enfance, cette menace constamment sur lui. Moi, j'aime vraiment plutôt ça, et à la fin, j'étais vraiment ému. Ça m'a touché.
Pierre ?
Eh ben, il y a vraiment une différence pour moi là entre le fond et la forme. C'est-à-dire que la forme, je la trouve absolument superbe. Il a réussi à faire ce mec ce que Spielberg avait totalement loupé dans son dernier film, là, le bon.
Ah bah depuis de nombreux films.
Oui, le bon gros géant là. Non mais je veux dire,
L'histoire n'est pas loin. Hein.
Mais oui, voilà. Donc c'est une réussite. On est vraiment dans le fantastique. Il y a une force visuelle absolument manifeste. Et je suis d'accord, Xavier, quand tu dis que les passages animés dans lesquels ce sont des leçons de vie à ce gamin sont formidables, intelligentes et très bien. Le petit problème, c'est que tout de même, à la fin, que je ne raconterai pas, bien entendu, bien que l'envie ne m'en manque pas, c'est quand même, on se dit tout ça pour ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a quand... Et puis alors, ça devient vers la fin d'un pleurard absolu. C'est-à-dire que les scènes d'hôpital avec l'actrice Felicity Jones sont quand même insoutenable.
Tu vas raconter, que c'est, Pierre.
C'est
tu vas
raconter. Déjà, il vient de parler de l'hôpital.
Voilà.
Xavier lui-même a dit qu'elle mourait d'un cancer. Donc on peut
On a dit Xavier et moi qu'elle était malade.
Première émission de l'année, première fin racontée.
Bon, en tout cas, je trouve que la résolution de ce cauchemar magnifique laisse à désirer. Voilà. Bon, je ne dis plus rien.
Jean-Marc.
Ben non, moi je suis pas d'accord. J'aime beaucoup la manière dont ça commence comme un film fantastique et ça se résorbe en un mélodrame sur quelque chose de très simple et de très basique qui est le deuil et le chagrin d'un enfant. Et il y a une idée vraiment qui est très très belle dans le film, c'est d'inverser la perception du monstre. C'est-à-dire que ça commence, il y a une citation de King Kong de Schwarzenegger Cooper, que d'ailleurs on revoit la fin du film qui est vraiment sublime. Et alors que généralement le monstre incarne l'inconscience qui fait peur, là le monstre c'est vraiment un psychanalyste. Et le film va suivre toutes les stations d'une pure analytique avec cette espèce d'arbre géant dans le rôle du psychanalyste. C'est un psychanalyste pas du tout lacanien, c'est-à-dire qu'il parle sans arrêt, il donne son avis, et il y a quelque chose de presque assez amusant dans ce dialogue entre un enfant et un arbre, l'arbre étant son thérapeute. Donc moi j'aime beaucoup cette dimension farfelue du film. Et après, au-delà de la facture visuelle du film qui par moments est impressionnante, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très sensible et de très juste sur le personnage. Et j'adore par exemple la manière dont il est en manque d'une punition, c'est-à-dire qu'il se sent tellement coupable de la maladie de sa mère qu'il cherche à se punir, et c'est lui qui va au-devant de ceux qui le persécutent au collège parce qu'il cherche des coups, il cherche à avoir mal pour, d'une certaine manière, exorciser la douleur psychique qui est la sienne. Donc je trouve que le film est vraiment très fin sur les gouffres de l'enfance, et c'est très troublant, comme l'a dit Xavier, la façon dont il dialogue avec le film de Marco Bellocchio dont on va parler, c'est-à-dire le géant dans un film ou Belphégor dans l'autre film, c'est vraiment le même usage, et c'est deux films assez beaux sur l'imaginaire enfantin.
En fait, Jean-Marc et Xavier, en fait, ce film, quelque chose de très personnel. Hein, de,
en fait, c'est ça qui me dérange, moi, c'est le monstre psy.
Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona.
Non, bon, ça m'a quand même donné envie d'aller le voir.
Mais tu pouvais très bien en parler sans aller le voir aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
Franchement, pas de réaction, non, sur ce film. Début d'année, très Pablo Larraine. Je veux parler de ce jeune cinéaste chilien qui avait fait Santiago 73, on avait dit beaucoup de bien ici. Et le 1er février sortira Jackie, où Larraine fait le portrait de Madame Kennedy avec Nathalie Portman dans le rôle titre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, uns ou les autres. Et cette semaine est sorti Neruda. C'est rare qu'il y ait deux films du même réalisateur en si peu de temps à l'écran. Neruda avec Luis Gnecco dans le rôle du grand poète chilien et communiste à un moment très particulier de sa vie, quand en 48, alors que Neruda est sénateur, le président Videla demande à l'inspecteur Oscar Peluchono, c'est Gaël Garcia Bernal, de procéder à son arrestation. Neruda, eh ben, il échappe aux flics, il se cache, il se déguise. Ah, les déguisements. Il se réfugie en Argentine et ensuite à Paris, et c'est le récit haut en couleur d'une traque digne d'un polar, où évidemment tout est vrai parce que tout est faux, et où on mesure surtout l'art qu'avait Neruda, du moins selon Pablo Larraine, de mettre en scène sa propre vie. Non d'ailleurs sans une mégalomanie, je crois, bien réelle. Et c'est vrai que ce qui est, enfin moi j'ai trouvé formidable, c'est ce mélange constant de vrai et de faux qui donne vraiment sa patte à ce film que tu as vu, celui-là en revanche, Daniel.
Absolument, et que j'ai aimé énormément. C'est vraiment l'anti-biopic.
Ah oui, c'est l'anti-biopic.
Voilà, alors que, bon, on en parlera plus tard, mais Jackie, c'est un véritable biopic. Et on n'a pas l'impression que c'est le même homme qui est filmé ces deux films-là. Autant Jackie me semble froide et remettant toutes les choses bien à sa place, et les boucles d'oreilles et les petits chapeaux. Tandis que là, il y a un flot d'amour pour la poésie. Alors c'est vrai qu'il est mégalo, un petit peu, notre Neruda, mais les rapports entre le poursuivant et le poursuivi, entre le chasseur et le gibier, qui tout à coup les rôles s'inversent, ou le flic, Gael Garcia Bernal, absolument incroyable de douleur et de désir d'attraper sa proie, et comme tout à coup, je ne raconterai pas la rencontre, mais il faudra bien que cette rencontre ait lieu. Et c'est, on est passionné. Et la façon dont Pablo Larraine décrit son pays à ce moment-là, il y a un moment de très loin, on voit des portes d'un camp de rétention vaguement, mais de loin. Et le mot, le nom de Pinochet est prononcé, c'est tout. Comme une prémonition, comme ce qui va se produire.
Et qui va se produire.
Et qui va se produire. Voilà, moi je trouve que c'est l'antibiotique le plus bouleversant qu'on puisse imaginer, avec ce personnage qui, à un moment donné, on lui dit « tu devrais être plus modeste ». Il dit « oui, c'est pas faux ».
Et le comédien est formidable.
Absolument.
Et un côté Michel Faux, argentin,
voilà,
je trouve.
Et avec Péluchonneau, Gael Garcia Bernal, dans cette espèce de rectitude terrifiée d'attraper sa proie, c'est vraiment un film étonnant et très beau.
Pierre ?
Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment très, très, très bien. Et c'est un film à la fois, enfin, qui est aussi ludique. C'est-à-dire qu'en effet, entre ce poète célébré, mais qui est totalement insupportable, et c'est ça.
Oui.
Et c'est ça. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'il le montre, il ne l'idéalise pas, il ne le sanctifie pas.
Alors qu'il épouse une cause magnifique.
Voilà. Mais bien sûr. Mais c'est quand même un type absolument immodeste, vaniteux.
Oui, il n'arrête pas de déclamer.
Oui. On lui dit, prends ton ton poétique, et commence à déclamer un ton poétique absolument insupportable. Mais il a raison de s'engager la façon dont il s'engage, bien entendu. Et de l'autre côté, ce flic au nom un peu ridicule, que je trouve
Péluchonneau,
que Gael Garcia Bernal joue absolument de façon magique, et finalement, en effet, les deux se rapprochent au point que l'un devient pratiquement la créature de l'autre. On se demande s'il l'a pas inventé totalement,
oui, le romancier. Péluchonneau qui dit à un moment donné, je voudrais arrêter d'être le personnage secondaire.
Secondaire.
Il veut être le personnage principal.
Et d'une certaine façon, peut-être qu'il y arrivera. Alors, il y a peut-être une ou deux petites longueurs sur... Mais plus le film avance, plus les deux se...
Et puis la fin est formidable.
Et la fin est absolument formidable.
Un western.
Voilà, absolument formidable.
Retiens-toi, Pierre, retiens-toi. Tu peux le faire.
C'est Inarritu en mieux.
Là, tu le provoques.
C'est Inarritu en mieux. C'est vraiment très, très, très bien.
C'est totalement gratuit. Xavier.
Ah, bah si.
Moi, c'est un film que j'avais vu à Cannes, que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas complètement réussi à le reconstituer sur la fatigue, sans doute, donc je l'ai revu. Et je trouve que c'est magistral. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il n'y a que des très bonnes idées. La voix off, par exemple, que l'on prêterait spontanément à Neruda, c'est celle de ce policier. Ce policier qui est d'emblée un personnage de fiction, puisqu'il s'est lui-même inventé une filiation à ce policier des policiers dont la statue est au milieu du commissariat
Péluchonneau.
Il s'est dit, je suis son fils caché, il ne m'a jamais reconnu, on n'en sait strictement rien, donc lui-même s'est déjà inventé une biographie, donc il a admis être passé du côté de la fiction. Neruda lui sème des polars comme ça, des polars de bas étage, évidemment des romans de gare, qui pour l'attirer à lui, parce qu'à un moment il a cette phrase absolument géniale, je veux les sentir près de moi, parce que qu'est-ce que Neruda est en train de sentir dans la fiction que Larraine nous propose, c'est que de héros, il est en train de passer à un mythe et il veut devenir ce mythe. Il veut devenir ce personnage unique, extraordinaire, traqué.
Mais tu dis fiction, attention, c'est plein de choses vraies aussi.
Non, bien sûr, c'est plein de choses vraies.
Mais c'est pas un roman.
Non.
Mais on est bien d'accord, mais il a inventé pas mal de choses. Et en tout cas, il y a des scènes, par exemple, il y a des dialogues qui changent quatre fois de décor. On passe à l'intérieur, à l'extérieur, plein jour, plein de nuit, comme si la poésie pouvait tout inventer, comme si subitement, justement, Neruda était en train de poétiser sa vie, son destin. C'est vrai qu'il est un héros, la séquence d'ouverture est à hurler de rire, ou dans les pissotières de l'Assemblée, ils sont en train de s'engueuler et de s'insulter, mais il se dit, là, je vais m'inscrire dans l'histoire, et ça va très bien, son côté cabot, il veut effectivement être un personnage historique, une figure devant laquelle l'éternité se prosternera, et c'est ce que décrit magnifiquement la reine sans se moquer de lui, avec éminemment de subtilité et de finesse. Il y a des scènes dans le bordel absolument extraordinaire où il se cache parmi les prostituées. Et puis en même temps, c'est un opéra bouffe qui termine comme un opéra seria, comme un requiem. C'est magistral et on a l'impression que de temps en temps que c'est Courteville à la musique et Buñuel à la caméra. Et en même temps, c'est complètement du Pablo Larraine dans ce qui a toujours fait son cinéma depuis Tony Manero, quoi.
Jean-Marc.
Ben moi j'aime pas du tout le film. Mais non, vraiment pas du tout. Et je vois bien ce qu'il y a de rusé dans ce qu'il vise, mais je trouve qu'il se prend totalement les pieds dans cette volonté d'exercer sa verve satirique à la fois sur Neruda et sur le personnage qui le poursuit. Je vois pas trop. En quoi c'est productif de rendre le personnage aussi antipathique, aussi clown.
Il
est très antipathique. Et donc du coup, il y a deux clowns qui se pourchassent et je vois pas trop sinon le désir de prendre le contre-pied du protocole habituel du biopic. Je trouve ça malin et pas très intéressant et je déteste formellement le film. C'est-à-dire que ça me rappelle, et vraiment dans ma bouche, c'est pas un compliment, ça me rappelle un peu la mise en scène des films de Sorrentino. Je trouve que dans sa manière d'abuser des contre-jours, d'abuser je trouve qu'il y a une sorte de grossièreté visuelle dans la manière d'appuyer sur tous les effets, de viser une sorte de mise en scène perpétuellement grimaçante qui me rend le film formellement assez repoussant et dont je ne saisis pas en plus l'enjeu sur ce qu'il raconte.
Oui, mais attends, Sorrentino, il est quand même beaucoup plus moralisateur, il a toujours une façon de dénoncer. On va pas revenir. Alors qu'il y a chez la reine autre chose, il me semble-t-il. Il réfléchit vraiment à un personnage historique et en même temps ce qu'il fait.
Il y a son pays. Depuis Tony Manero, il ne fait que ça.
La folie de cet homme-là. Et je trouve que justement, tout en restant dans les rails de la biographie, il est d'une inventivité, d'une poésie, d'une imagination débridée, quoi. Bon, je suis d'accord avec toi sur Sorrentino. Il y a un axe. Bon.
Ah bah si, non, mais il faut le dire quand même. Et même les seconds rôles. L'épouse de Neruda, c'est un personnage formidable.
Et la fausse épouse qui va à la radio. Voilà. Ah non, mais c'est magnifique.
Neruda, donc le film que n'a pas aimé Jean-Marc Lalanne. De Pablo Larraine. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Faites beau rêve, dont vous avez très envie de parler les uns les autres, le nouveau et long film, 2h15, du maestro italien Marco Bellocchio, avec Valerio Mastandrea, Berenice Bejo, Guido Caprino. Et là, Bellocchio adapte ce récit autobiographique que je ne connaissais pas, de Massimo Gramellini, qui est un journaliste de la Stampa, histoire d'un homme qui a grandi sans faire le deuil de sa mère adorée, morte brutalement lorsqu'il avait 9 ans. Et là, l'enfant est incarné par un gamin, un petit rebelle, qui s'appelle Nicolo Cabras, qui a un regard noir, mais incroyable, et qui traverse l'écran, je trouve. Bref, journaliste sportif, puis reporter de guerre, il a cherché jusqu'à ses 40 ans à comprendre pourquoi et comment sa mère avait disparu. Une mère dont les derniers mots le hantent, et c'est « Fait de beaux rêves ». Le titre du film, histoire d'un homme qui vit avec le souvenir de cet amour exclusif et paralysant, et que Bellocchio raconte dans ce film plein de flashbacks, sans chronologie d'ailleurs, ce qui donne un côté un peu puzzle, avec à la fois des images d'enfants à Turin, des images de télé, je ne sais pas qui parlait de Belphégor ici, avec Juliette Gréco, et des images d'actualité avec la guerre des Balkans. Bérénice Bejo jouant la femme médecin qui permet à Massimo de guérir de son passé. Celui-là, tu l'as aimé, Jean-Marc, ou pas?
Ah oui, beaucoup. Oui. Ah. C'est marrant parce que Bellocchio, c'est un cinéaste auquel je ne pense pas souvent, en fait. Et là, j'étais saisi de voir à quel point c'est vraiment un immense metteur en scène au sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que ce qu'il crée par la mise en scène, par le sens du rythme, du cadrage, c'est inouï. Et la façon dont il métamorphose, dans la partie qui concerne l'enfance du personnage, l'appartement en une sorte de grotte, de conte enfantin, où les couloirs deviennent des tunnels, c'est quasiment Moonfleet de Fritz Lang. Il y a vraiment une puissance dans la restitution de l'imaginaire enfantin qui m'a interloqué, vraiment par la puissance de ce que peut la mise en scène. J'adore la construction en puzzle dont tu parlais, le côté très très pointilliste, qui va recomposer comme ça un trauma en prenant tous les moments éparpillés dans la vie, ou quelque chose ressurgit comme une question ou parfois se résout. Il y a une scène vraiment sidérante où le personnage fait un reportage en Serbie et il voit un enfant qui voit sa mère mourir devant lui et qui se réfugie dans un jeu vidéo et tout à coup il va comprendre que cette forclusion, ce déni, c'est son histoire et c'est une image vraiment fulgurante. Donc il y a vraiment une puissance incroyable par la mise en scène et puis un très très beau personnage d'enfant éponge qui s'empare de tout ce qui est autour de lui. Ça peut être la natation, le football, Belphégor, la variété italienne. Julianne, et il projetait quelque chose qui lui permet de fuir un malheur auquel il n'arrive pas à faire face. C'est un film vraiment très émouvant.
Pierre ?
Ben, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas entré du tout dans ce film. Moi, j'ai vraiment une grande passion pour Marco Bellocchio. Depuis quelque temps, je trouve qu'il était revenu au zénith depuis Vincere, quand il avait fait, Buongiorno Notte, et enfin, ces films bien récents sont absolument magnifiques. Et là, j'ai trouvé, contrairement à toi, toutes les qualités que tu viens de dire, c'est-à-dire que le scénario que tu dis puzzle, moi, je l'ai trouvé inutilement compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait pratiquement pas d'émotion. Je trouve qu'on est
pas tout... d'émotion du
non.
tout.
Non, pour moi, non. Alors, j'ai peut-être un problème avec l'enfance, les enfants, probablement. Probablement, puisque
l'enfance
c'est la deuxième
et les
fois
enfants,
que.
C'est intéressant.
Ben, je ne sais pas, sans doute, l'enfance sans doute, sans doute. Enfants. Parce que je.
Tu refoules quelque chose.
Je vais aller voir. Le...
Chagrin.
Je vais aller voir le monstre psy, peut-être qu'il me dira donnera quelques conseils. Mais je trouve ça, en plus, d'abord très balourd, ce que Bellocchio est quelquefois, et là il l'est au maximum. Et puis je trouve que il nous donne tellement d'avance, c'est-à-dire que on a compris très vite ce que le héros met 42 ans à comprendre. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on est tellement, on se dit, bah oui, attends, tu comprends pas quel est le secret? Bah, on va te le dire, quand même. Ça devient d'une lenteur, d'une longueur, d'une préciosité.
Mais c'est pas le sujet, ce secret, c'est pas vraiment le sujet du film.
Oui, mais comme la forme, je la trouve un petit peu lourde cette fois-ci aussi, s'il n'y a pas de fond, où le fond me paraît un peu banal et la forme un tout petit peu lourde, et ben pour moi c'est un mauvais Bellocchio. Ça arrive.
Le sujet, c'est plutôt l'aveuglement.
Il y a des gens qui ratent quelquefois des films. Ça n'empêche pas d'être un des plus grands cinéastes italiens actuels. Et encore une fois, je revais avec plaisir les deux trois films que je viens de dire. Mais celui-là, je reste sur le seuil.
Xavier ?
Ah, je suis pas d'accord du tout. Je trouve ça magnifique. Pour moi, le vrai sujet du film, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces fantômes qui ont traversé notre enfance et qui nous hantent jusqu'à... Oui, bah, tu sembles lever les yeux au ciel, c'est une évidence.
Non,
mais
ce
n'est pas parce que c'est une évidence que le sujet n'est pas magnifiquement traité. Il y a les fantômes, effectivement, de Pacotille, de la télé, qui nous terrorisent, mais dont on ne se débarrasse jamais. Belphégor, effectivement, dont il cherche à faire un allié, ça c'est magnifique, puisqu'il convoque Belphégor dans les moments de détresse. La scène d'ouverture, c'est une scène de cauchemar. C'est-à-dire qu'elle lui a dit fait de beaux rêves, il entend un bruit qui claque et supposément toutes les portes se claquent, se referment sur lui comme dans une maison hantée qui se verrouillerait autour de l'enfant et ce couloir il n'en sortira jamais. Alors c'est peut-être lourd psychanalytiquement, mais sur le plan du cinéma ça donne quelque chose de magnifique parce qu'il y a un travail sur le son qui est complètement non réaliste et qui du coup j'allais dire exacerbe ce côté inquiétant, ce côté étrange. Le film est constamment baigné d'une étrangeté un peu dérangeante, un peu glauque, je déteste pas, au contraire, qui est vraiment complètement dans le sujet, parce que c'est un gamin qui va passer sa vie à chercher à sortir de ta nébuleuse, et les cadavres vont continuer de le récupérer. Il va interviewer quelqu'un, le type se suicide parce que la police vient le chercher. Il y a cette femme, effectivement, dont il découvre le cadavre à Sarajevo. Et toute sa vie, il a l'impression qu'il est damné comme ça, de la manière dont les morts vont aller le chercher, et il essaie de comprendre pourquoi. Bien sûr qu'il a compris de quoi était morte sa mère, évidemment, sauf que le silence, c'est un refuge. Le déni, c'est un refuge. Tout en deux minutes, je suis désolé. Et le film, en même temps, est lumineux de temps en temps par son utilisation insolite de la musique. À un moment, il y a une chanson française que je chic dans les prés, magnifiquement chantée par Emmanuel Devos, que tu as oublié de citer, qui est absolument magnifique.
Moi, je comprends. Si vous voulez, je raconte maintenant tous les films pendant.
Il y a de la pop italienne, il y a de la pop anglaise.
Fait 2h15 ce film.
C'est, oui, mais moi, j'ai vraiment, je trouve ça bouleversant.
Daniel.
Ben, j'étais aussi totalement bouleversée. D'abord, avec ce sentiment que, quand même, Bellocchio, c'est le dernier grand d'un cinéma italien que nous avons tant aimé.
Il est plus tout jeune. Hein.
Non, il a...
Non, il est né en 39.
Oui, voilà, il est né en 39. Cette scène d'ouverture, ce fait de beaux rêves, c'est effectivement cette nuit-là. Bon, il danse. Il danse avant que le petit garçon se couche, s'endorme, et sa mère fait de beaux rêves. Et c'est tout le film. Comment on peut faire de beaux rêves quand on a un chemin qui est balisé par cette béance, par cette absence, à laquelle d'abord il ne veut pas croire. Et c'est ça, c'est cette volonté de ne pas croire à la mort qui va le poursuivre absolument toute sa vie. Et ça, c'est absolument magnifique. Au passage, Bellocchio montre que le secours de la religion est assez inefficace. Il a suivi l'autobiographie de ce journaliste, parce qu'effectivement, c'est une vie qui est jalonnée par la mort et par la recherche. Il y a une réplique qui dit tout le film. À un moment donné, on pose une question, on lui dit « Vous êtes orphelin ?» Et il répond « Je l'ai été ». Et tout le film est là. C'est-à-dire comment on avance, comment on réussit à savoir sans vouloir le savoir. Et vraiment, c'est un film qui, tout au long, moi, j'ai vraiment pas ressenti les 2h15. Et bon, Bellocchio, c'est quand même pas la première fois qu'il se penche sur le couple initial, n'est-ce pas, mère-fils. 50 ans plus tôt, il donnait les poings dans les poches, avec beaucoup plus de colère, et une colère politique et une colère humaine. Là, c'est remplacé par une immense mélancolie et la capacité qu'on a vraiment de réaliser ce vœu pieux qui est « Faites vos rêves ».«
Faites vos rêves », c'est Marco Bellocchio. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ? Non, l'enfance toujours avec « Primaire ». D'Hélène Angèle, la réalisatrice de Propriété interdite, avec Sarah Forestier dans le rôle d'une professeure des écoles divorcée. Elle est tellement dévouée à ses élèves qu'elle est prête à négliger son propre fils pour se consacrer à sauver Sacha, un garçon en grande difficulté, dont la mère est aux abonnés absents et dont le père, c'est Vincent Elbaz, est un livreur toujours en vadrouille sur son scooter. Et le film raconte le combat de cette prof courage, absolument admirable, si ça existe, moi je veux qu'on me la trouve, qui bataille avec l'institution, qui doute et qui n'est pas insensible. Ça, c'est pour la fin de l'histoire, hein, Pierre, au charme du père de Sacha. Scénario donc plein de bons sentiments, mais il faut dire que Sarah Forestier, moi j'ai trouvé absolument épatante en super instit. Et puis les gamins, là encore, de CM2, sont d'une vérité absolument formidable. Et dans la classe, le film, dont l'image est signée Evangelo, flirte parfois avec le documentaire, mais documentaire avec, je le disais, une fin heureuse, Xavier.
Ah, moi, je marche. J'assume, j'aime beaucoup Primaire, vraiment, je trouve qu'Hélène Angel, comme à l'image de sa filmographie, où elle ose des choses improbables, comme la chanson de geste médiévale, Rencontre avec le dragon, par exemple, ou le film fantastique avec Propriété interdite, elle n'est jamais vraiment là où on croit qu'elle s'est placée par rapport au sujet. On attend le film sociologique sur l'école, sur les...
Oui, d'ailleurs, quand on lit le résumé, avant de voir le film, on hésite un peu.
On hésite un peu, voilà, on se dit, bon, voilà, professeur des écoles, et en fait, elle arrive, alors c'est évidemment ce que tu as décrit parfaitement, ça, c'est la trajectoire du personnage, mais elle arrive à la fois à être dans le romanesque à travers sa relation très difficultueuse avec son fils qui lui reproche, c'est sa mère, c'est son prof, et en plus elle est en train de lui préférer Sacha, un gamin qui fout le bordel tout le temps.
Elle lui préfère pas, elle veut s'occuper de lui plutôt.
Oui, mais lui se lui sent se délaissé, sent. Voilà, et comme le père est parti et que le père lui propose peut-être de le rejoindre, il y a un désir peut-être de cet enfant de s'échapper parce que sa mère n'est plus là. Il lui dit d'ailleurs dans une scène que je trouve assez réussie. Et puis en même temps, il y a l'anecdotique, c'est-à-dire qu'elle arrive à tourner un lapin fluorescent que les gamins ont peinturluré et qui manque à la classe des petits d'à côté. Donc, je trouve qu'elle a réussi, en fait, un film de guerre à l'intérieur de cette institution.
Oh, c'est pas un film de guerre.
Si, c'est un film de stratégie. Non, non, mais guerre veut pas dire conflit ou violence. C'est-à-dire que.
Ça veut pas dire amour.
Chaque jour, cette prof, effectivement, un peu courage, un peu emblématique, doit gagner des batailles, quand même, pour s'occuper de Sacha. Les autres profs auraient tendance à vouloir le laisser de côté parce qu'effectivement, il y a un moment où il faut faire classe. Elle sent bien que les inégalités, l'école publique va pas les résoudre, mais elle pense fermement, et j'ai envie de penser comme elle, même si c'est naïf, que l'école publique va nous donner des armes, au moins, non pas pour lutter, pas pour vaincre les inégalités, mais au moins pour s'affermir un peu face à elle. Donc, je trouve que, si, il y a quand même quelque chose de ça. Je trouve que la manière dont elle essaye de lier des alliances, de remporter des victoires, de topographier le territoire dans lequel elle doit lutter chaque jour, il y a un tout petit peu un côté film de guerre que je trouve vraiment intéressant.
Je suis d'accord, elle est formidable, cette petite Sarah Forestier.
Sarah Forestier, elle est menue, elle est petite, elle est fragile, elle a une énergie.
Prof des écoles dans une vie antérieure, c'est
ah oui,
possible,
elle est extraordinaire. Il y a un moment, vraiment le moment dont on n'a pas envie, le monologue, je suis fier de mon métier, je suis fier d'être là où je suis, où elle est, mais bouleversante.
Daniel.
Ah oui, mais on sent, bon, c'est assez rare de sentir qu'une actrice s'est engagée, pas seulement dans le texte qu'elle avait à dire, mais dans ce qu'elle avait à transmettre. Et ça, tout le temps, voilà. Elle y est. Elle est prof de CM2, voilà. Et ce qu'Hélène Angel a très très bien réussi aussi, c'est le casting des mômes. Parce qu'ils sont quand même... incroyable.
Oui, il joue sans jouer, évidemment.
Non, il joue sans jouer, mais en plus, c'est pas complaisant. C'est pas des bons petits diables. Ils sont cruels entre eux, et ils ont des têtes à claque. Elle fait pas l'impasse. Voilà. Alors, effectivement, une fois que le dispositif est en place, Voilà, on pourrait le voir pendant des heures et des heures parce que c'est une année scolaire. Alors, moi, j'ai un bémol, mais qui n'enlève rien. C'est cet épilogue absolument ridicule. Quand j'ai vu, il y avait cette fête de fin d'année un peu loupée, mais tellement touchante, et un plan presque arrêté de la fin de cette fête. Et là, tout à coup, le petit final, nunuche. J'avais envie de prendre mes ciseaux en disant, ça s'arrête là. Ah ben si, ça s'arrête là. Il y avait une fin, mais il y avait un dernier plan.
Parce qu'après la guerre, il faut l'apaisement.
Oh non.
Ouais, pas mal. Non, si, je valide.
Non, il faut couper les... Pierre. Sortez avant l'épilogue.
Allez, il y a encore de m'avoir, Pierre.
C'est, comme vous l'avez dit, inattaquable. C'est absolument inattaquable. C'est exactement ce que
ça veut dire que tu vas l'attaquer.
Et en même temps, c'est légèrement indéfendable. C'est-à-dire que. Mais non, c'est inattaquable parce que c'est exactement ce que Daniel et Xavier ont dit. C'est-à-dire que c'est la prof magnifique. Elle s'occupe un tout petit peu moins bien de son gamin, mais c'est pour mieux.
Enfin, c'est t'as une tout sainte compris, laïque. En tout cas.
Au moins, tu vois,
c'est une consolation. Avec les enfants, au moins, c'est
un problème avec l'enfant.
C'est une consolation. Au moins, j'ai compris. Non, mais voilà. Mais le reste. Donc vous avez raison, qu'est-ce qu'on peut dire sinon bravo, youpi, l'éducation, film de guerre, dit Xavier, une sainte laïque, sans doute, mais pourquoi pas? Et allons-y, continuons comme ça. Maintenant, si on parle cinéma, moi je suis pas tout à fait sûr quand même que Hélène Angèle, qui a un début de carrière qu'on a rappelé, soit extrêmement ravie de faire ça. Elle a fait quand même... Non, mais je veux dire que...
Elle a choisi de le faire quand même.
Elle a choisi de le faire, mais enfin peut-être qu'elle pouvait pas faire autre chose. Elle a eu beaucoup de difficultés à monter des films, parce que ces films étaient beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus noir, beaucoup plus féroce que ça. Là, c'est quand même l'optimisme, la guerre, mais la guerre tendre quand même. La guerre pas des boutons, mais presque. Donc voilà. Non, mais si on aime les bons sentiments et surtout et l'épilogue, Daniel. Qui est quand même assez navrant, allons-y, parce que vous allez pleurer. Et Sarah Forestier est tellement, tellement, tellement bien. Mais au point de vue cinéma, pardon, c'est très en retrait de ce qu'Hélène Angèle a fait jusqu'à présent.
Jean-Marc ?
Oui, je trouve ça un peu trop mignon aussi, et un peu formaté. Je trouve que dans la conduite du récit, dans la manière de tout traiter par petites scénettes qui veulent être très enlevées, et le film est quand même assez talentueux, il y a une fluidité dans le récit, mais que je trouve un peu conventionnel. Et je trouve que l'intrigue romanesque est quand même assez faible. C'est-à-dire que l'histoire de séduction avec le parent d'élève joué par Vincent Elbaz me semble vraiment de la pure convention. Oui. Et la manière de filmer les enfants, je la trouve pas si passionnante que ça. Je trouve que malgré tout, même si elle n'esquive pas la cruauté qu'il peut y avoir par moment dans une classe, il y a aussi un usage des seconds rôles un peu mignons. C'est-à-dire que les enfants sont quand même souvent un peu mignon et fait pour ponctuer.
Ça arrive qu'il soit mignon.
Oui,
même.
Mais l'usage qu'elle en fait à des fins de séduction, je le trouve par moments un peu racoleur.
T'étais mignon à l'école. Même toi.
Mais alors, si. Non, je crois
Pierre,
pas.
N'en parlons pas.
Non, mais on pourrait par exemple.
Franchement, Jean-Marc.
Pas du tout, on se balançait des lentilles au visage.
Jean-Marc, avec sa petite trousse Hello Kitty.
Non, mais je voudrais rajouter une chose. On pourrait comparer le film, par exemple, à ceux d'un autre cinéaste qui en général défend beaucoup l'école publique, c'est Abdelatif Kechiche, et on y pense d'autant plus qu'il y a une scène où Sarah Forestier anime une séance de théâtre qui fait vraiment penser à l'esquive, et je trouve que Kechiche fait des plaidoyers pour l'école publique qui ne sont pas empreint de mièvrerie, comme par moments ce film, auquel je trouve aussi des qualités, mais que je trouve quand même pas complètement satisfaisant.
Bon, primaire d'Hélène Angèle. Allez, on va vite pour finir l'émission. Il y a d'abord, j'avais inscrit le fondateur. Oh. 2h12, je me suis payé de ce film. Mais quelle idée, j'ai eu de mettre ça. De John Lee Hancock.
Et donc, c'est très gentil, les frères.
Quel scénariste de d'Eastwood, et qui raconte comment, en 1961... Ray Kroc, qui est joué par Michael Keaton, je regrette, dans Birdman, un représentant en machine à milkshake a rencontré donc les frères McDonald, qui tiennent, vous l'imaginez, ce restaurant de burgers en Californie. Et il va, voilà, proposer de franchiser la marque et bâtir l'empire de la restauration rapide qu'on connaît. Ça dure 2h12, je le disais. On a l'impression d'être une sorte de maxi-maxi burger.
Ah, non, mais c'est-à-dire qu'on se pince pour savoir si c'est
là,
vrai.
J'aime bien que tu racontes la fin parce que.
Non, je raconterai pas la fin. Non, mais on se pince pour savoir si c'est vrai parce que les frères McDo, quand même, qui font de la nourriture, mais qui sont très soucieux de leur c'est propre, c'est bon, c'est sain, c'est une nourriture, ça, absolument magnifique. Et alors, Michael Keaton qui arrive là pour franchiser le truc, mais alors il fait attention au moindre, qui est vraiment pas un bout de gras en plus, etc. Je sais pas, on se dit, les McDo qui ont envahi, qui ont fait le symbole de la malbouffe, et voilà qu'on fait pratiquement un film pour là aussi les déclarer comme des saints. Moi, je me suis pincé plusieurs fois en disant, mais ils vont pas aller jusque-là quand même. Eh ben si, ils y vont, c'est absolument nul.
Xavier.
Mais c'est un film qui passe son temps à sanctifier tout le monde. Les frères McDonald's qui ont inventé la malbouffe, ce mec qui leur a volé l'idée quand même, qui les a ruinés à vie.
Ultra-américain.
Ah, mais ultra-américain. Alors c'est un salaud, mais c'est un salaud américain. Donc tout va bien, il est du bon côté de la barrière et de la bannière. Et alors il y a quand même le comble de la faucuterie. Moi, je vais raconter la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, ce type, pour faire plus de bénéfices, propose des milkshakes en poudre. Et donc voilà, c'est sa future femme qui lui propose ça. Et à la fin du film, vous avez un carton qui dit, non, on vous rassure, maintenant McDo a abandonné la poudre, ils vous font des milkshakes et de la vraie glace. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on nous vend cette marque de merde quand même.
Oui, c'est ça.
Et j'adore le carton de la faucuterie. Tout va bien, c'est plus de la poudre. Mais il aurait peut-être fallu en prendre justement pour le scénariste parce que c'est ouh.
Un mot, Daniel.
Ah non, mais moi j'ai une dent contre McDo parce que j'étais obligé d'en bouffer pour faire plaisir à mon petit-fils pendant des années.
Ah, salaud de petit-fils.
Ah, salaud de petit-fils.
Ah, tu vois,
plus, t'aimes pas les enfants, hein.
Non, pas du tout. Si, j'aime mon petit-fils, mais pas le McDo. J'ai failli avoir une attaque il y a des années à Rome parce que tout à coup j'ai vu un McDo place d'Espagne et là il vient d'en ouvrir un sous la coupole de Saint-Pierre. Non, mais on est fou. Et en plus, ce film, c'est un héros positif puisqu'il gagne du fric.
Ah bah
c'est dégoûtant.
C'est dégueulasse.
Dégoûtant. Voilà, c'est un gros Big Mac.
Mais c'est un film trumpiste, en fait.
Ah, mais complètement.
Le fondateur.
Scénariste de Clint Eastwood. Hein.
Et le documentaire de Jean-Michel Bertrand, La Vallée des Loups, qui a passé 3 ans. Il faut dire qu'il a passé du temps dans une vallée des Alpes à bivouaquer.
Oui, enfin, nous, 1h45, c'est bien aussi.
Et à guetter. Alors là, en toute saison, les loups sauvages. D'ailleurs, c'est moins sur les loups que sur l'attente des loups qu'il piste, qu'il finit par approcher, même par se faire accepter. L'image, elle est très belle. Le texte est très subjectif, puisque c'est celui de Jean-Michel Bertrand. Jean-Marc, tu l'as vu celui-là ?
Oui, j'ai vu, oui. Qu'en dire je trouve que le pitch est intéressant. L'idée que on nous vend en fait un film, un docu animalier sur des loups, et finalement c'est sur l'homme qui cherche des loups, le contre-pied est plutôt intéressant, en théorie. Après, en pratique, le film est quand même passablement ennuyeux et cette attente des loups, elle est quand même très très longue. Le personnage qui les attend et qui, effectivement, le texte est de lui.
C'est-à-dire, il est courageux.
C'est lui qui conçoit le film. Son attente, il ne réussit pas à la rendre très cinématographique et le temps est vraiment long avant de voir des loups. Et quand tout à coup, on en voit un filmé à des images infrarouges, on se dit « ouf, un loup ». Et puis après, il faut avoir 20 minutes avant d'en revoir un, c'est un peu longué.
Ouais. Enfin, il est courageux parce qu'il dort n'importe où. Hein. C'est des endroits, c'est hostile. Daniel ?
Alors, moi, je me suis vraiment ennuyée. Puis, enfin, voir un monsieur mal rasé pendant 3 ans, ça dure, nous, 1h45, ça, vraiment, c'est long.
Tu ne voulais pas qu'il soit rasé, en plus.
Non, bien sûr, évidemment, dans ces conditions. Les paysages sont très beaux. Alors, tout à coup, le dialogue, le monologue, parce qu'il parle tout seul, mais enfin, il dit tout le temps « je suis tout seul », sauf qu'il y a quelqu'un qui le filme, quand même. Et,
c'est comme dans Koh-Lanta.
Voilà, et tout à coup, nous voyons un écureuil. Et l'homme dit, tiens, un écureuil. Ouais. Et puis là, tout à coup, il dit, il y a une ombre de loup. Ah, il a pissé où j'ai pissé. Fabuleux, certes. Bon.
T'as déjà pissé ou pissé loup, toi ?
Moi, jamais.
Bah, moi non plus, tu vois. Donc, ça fait une vie.
Et donc là, je vais faire mon Pierre Murat, je vais raconter la fin. Parce qu'après 1h45, on s'est beaucoup ennuyé avec cet homme mal rasé, au loin, dans un pré, on voit quelques louveteaux qui jouent. Et
qui sont jolis d'ailleurs.
Charmants.
Ils sont charmants.
Mais c'est charmant.
On les prendrait bien chez soi. Hein.
Mais vraiment, mais c'est la dernière minute.
Xavier.
Moi, je me dis que le type, il a du pot quand même, parce qu'il a acheté un matériel assez conséquent. Hein,
pour ah oui, les caméras.
Partout, les caméras.
Parenthèse presse dithyrambique hein, pour ce film.
Oui, oui, mais j'ai remarqué aussi, comme toi. Donc tiens, je me dis, il a quand même dépensé énormément pour aller chercher son loup. Imagine que le loup soit apparu la première nuit, il n'avait pas de film. C'est con quand même. Le hasard fait que, tu vois, t'arrives, première journée. La chance du débutant, il y a un loup qui passe. Bon, ben voilà, tu remballes, le film est fait, ça dure 3 secondes. On a de la chance, le loup met 3 ans à arriver. Et nous, 1h45 à le voir. Je n'en pouvais tellement plus que j'aurais été volontiers aux autoiries, louer un loup, le foutre dans l'écran et lui dire, bon allez, maintenant c'est fait, on rentre, hein, parce qu'on a toujours tout à faire. C'est d'un ennui auto-centré et c'est pathétique. Alors le mec nous dit, ah, je vais me faire de la soupe en poudre. Mais tu te le fais ce que tu veux, je m'en fous.
Tu serais pas obsédé par la poudre, toi.
Oui, avec son petit réchaud, là. Et puis mangeons petit miel, on le voit 3 fois tartiné du miel qui a pris, qui a figé sous le froid. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne ?
Tiens, un écureuil.
Pierre. Et voilà, il faut l'écureuil.
Bah, McDo m'ayant déjà complètement dégoûté, j'ai dit c'est trop.
Tu l'as pas vu ?
Mais non, j'ai pas vu.
Bon, mais j'espère bien que tu vas y aller.
Si je digère McDo, oui.
C'est donc La Vallée des Loups et c'est signé... Bonsoir, Jean-Michel Bertrand. Allez.
Non, mais là, il est reparti filmer des lombrics, on en a pour 5 ans. Il est parvenu.
Un conseil positif pour finir cette émission. Mon petit Pierre.
Eh bien, un coffret d'un cinéaste, alors qui est très, très, très différent de tout ce que, de tous les cinéastes dont on vient de parler là. C'est un coffret Richard Fleischer chez Carlotta. Il y a trois films qui sont parus là. Il y a Terreur aveugle avec Mia Farrow, qui est moyen. Mais il y a L'étrangleur de la place Reddington avec Richard Attenborough, qui est magnifique. Et Les flics ne dorment pas la nuit avec Stacy Cage et George C. Scott, qui est une petite merveille. Alors, ça change, mais c'est un cinéma très, très, très différent de... Mais Richard Fleischer, c'est pas mal.
Le conseil de Jean-Marc.
Alors, c'est un film dont Sophie avait parlé en conseil de fin de la précédente émission, qui s'appelle Diamond Island de David Chou, et j'enfonce le clou, c'est vraiment un très beau film. C'est le premier film de fiction de ce cinéaste qu'on connaissait pour un documentaire très beau sur le cinéma cambodgien qui s'appelait Le Sommeil d'Or. Et là, c'est la chronique de quelques ouvriers sur un chantier urbain à Phnom Penh. Et c'est aussi une très très belle histoire entre deux frères qui fait un peu penser à Russie James de Coppola. Et il y a vraiment un travail de restitution très très sensuel de la ville qui est très très beau.
Mon conseil, c'est un gros livre de 550 pages qui s'appelle Sélection officielle. C'est chez Grasset et c'est le volumineux journal qu'a tenu le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, entre mai 2015 et mai 2016. Alors évidemment, on le voit jongler avec les fuseaux horaires et surtout préparer la 69e édition du festival, choisir l'affiche, la présidence du jury et surtout la sélection officielle. Chaque année, dit-il, Cannes commence par le trac et s'achève dans la mélancolie. Et derrière tout ça, il y a surtout l'autoportrait d'un garçon qui est passé des minguettes à la croisette et qui est fou de foot, de Springsteen, de Sandra. Je ne sais pas si vous l'avez lu les uns ou les autres.
Non, pas encore.
C'est passionnant, c'est plein de choses que vous allez pas apprendre, mais en même temps redécouvrir sous sa plume. Le conseil de Daniel.
Je reviens à Marco Bellocchio avec la sortie d'un magnifique DVD chez Ad Vitam, donc la version restaurée du Jeune homme en colère, avec en plus les trois premiers courts-métrages qu'on connaissait pas, d'un Bellocchio de 20 ans, et en livret un splendide entretien avec Bellocchio de Michel Simon, éclairant, capital, et qui est véritablement une grande, 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 grande pièce.
Donc c'est le poing dans les poches.
C'est les poings dans les poches.
Et c'est en ad vitam.
Ad vitam, magnifique.
Le conseil de Xavier.
Eddy, un vent de liberté. C'est un premier film tunisien signé Mohamed Benatia.
Donc il n'y a pas de loup, moi.
Non, il n'y a pas de loup. Non. Il a été présenté l'année dernière à la Berlinale. Il est reparti avec le prix de la meilleure œuvre et celui du comédien que je vais citer, Maj Mastoura. Et c'est l'histoire d'un homme qui hésite entre deux femmes, qui hésite entre deux métiers. Alors c'est d'abord un parcours d'un type hésitant à la virilité pas tout à fait affirmée dans un pays où pourtant c'est nécessaire pour pouvoir survivre. Et en même temps, au filigrane, mais jamais de manière frontale et toujours subtile, c'est aussi le portrait d'un pays hésitant, peut-être, entre deux avenirs, entre la sécurité effectivement imposée et puis cette liberté qui fait quand même peur au moment où il faut l'assumer. C'est un film tout à fait remarquable.
Tous ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel Eman. Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne, Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Charles Trenet à la technique, il y avait Cédric Chatelus, Jean-Benoît Tétu, Éric Villenfin et la réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 19 janvier à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour une émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.